Il est 20h30 à Paris, une heure de plus à Johannesburg. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. La mort du peintre et poète sud-africain Britton Breitenbach ce dimanche à Paris à 85 ans. Militant anti-apartheid dans les années 70, Britton Breitenbach est renommé en Europe pour son œuvre picturale dans son pays natal. Il est surtout connu pour ses poèmes. Le Conseil norvégien pour les réfugiés dénonce l'inaction et l'indifférence de la communauté internationale face à la guerre qui dévaste le Soudan. L'organisation appelle donc à exercer plus de pression sur les acteurs du conflit pour exiger des accès. 300 milliards de dollars par an d'ici à 2035. Engagement pris par les pays développés ce dimanche à Bakou pour financer davantage les pays dits pauvres menacés par le changement climatique. Un engagement jugé insatisfaisant par ces derniers. C'était l'une des grandes voix de la littérature sud-africaine avec Nadine Gordimer, André Brink. L'écrivain et artiste Britton Breitenbach est décédé ce dimanche à Paris où il résidait. Il avait 85 ans. Retour sur le parcours d'un homme qui s'est battu contre l'apartheid et qui avait choisi la nationalité française. Portrait signé Catherine Fréchon-Toussaint.
Regard intense, stature élégante, voix profonde, Britton Breitenbach était une figure majeure de l'Afrique du Sud. Né en 1939 dans la province du Cap, il s'était engagé très jeune dans la résistance clandestine contre les régimes d'apartheid. Arrêté en 1975, condamné à une lourde peine de prison où il commence à écrire, libéré en 1982, il partageait depuis son temps entre la France, dont il parlait parfaitement la langue, l'Espagne, l'Afrique du Sud et l'île de Gorée au Sénégal. Britton Breitenbach, peintre également, était l'auteur d'une œuvre importante constituée d'une vingtaine de publications, romans, essais, nouvelles, poèmes et pièces de théâtre. Parmi ses titres les plus emblématiques, Une saison au paradis, Le cœur chien, L'étranger intime et enfin La main qui chante. De la noirceur à la lumière, l'œuvre de Britton Breitenbach continuera d'éclairer avec justesse la complexité de la nature humaine.
Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre particulièrement meurtrière. L'armée du général Al-Burhan et les forces de son rival, le général Hemeti, se battent pour le contrôle du pouvoir. Un conflit qui a plongé ce grand pays d'Afrique dans une profonde crise humanitaire. Alors que les deux camps sont accusés par l'ONU d'utiliser la faim comme arme de guerre, le Conseil norvégien pour les réfugiés pointe l'inaction de la communauté internationale. Jan Egeland, le directeur de l'organisation humanitaire, exhorte les diplomates et les Nations Unies à exercer plus de pression sur les acteurs du conflit pour exiger des accès humanitaires.
Nous n'obtenons pas de visa pour nos travailleurs humanitaires. Nous n'obtenons pas les permis dont nous avons besoin pour mener à bien nos opérations. S'agissant de l'aide transfrontalière, c'est fluctuant, ça va, ça vient. Et le plus souvent, aucune des deux parties ne nous laisse distribuer de l'aide de l'autre côté de la ligne de front. Le NRC a pu acheminer de l'aide humanitaire. C'était il y a quelques semaines. Et j'ai été heureux de voir que notre programme alimentaire a pu atteindre El Fasher. C'est dans le nord du Darfour. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous sommes face à un compte à rebours, vers la famine, vers l'effondrement, vers des horreurs, avec ce qui est la plus grande urgence humanitaire au monde.
Greatest humanitarian emergency.
Propos recueillis par Florence Maurice. Et puis, sachez que toute la journée de demain sera ponctuée par des reportages au Soudan. Vous retrouverez notre envoyé spécial Elliot Brachet en direct des 7h temps universel. L'ensemble de sa production sera elle également disponible sur les environnements numériques de Radio France Internationale. À l'issue de deux semaines de négociations houleuses, les pays du monde entier réunis à Bakou en Azerbaïdjan pour la COP29 ont approuvé un accord prévoyant au moins 300 milliards de dollars de financement annuel pour les pays en développement, des pays qui en exigeaient beaucoup plus pour faire face aux défis du changement climatique. Ce dimanche, après deux nuits de prolongation des débats, les pays pauvres et vulnérables se sont résignés à cet engagement qui relève à hauteur de 100 milliards de dollars annuels l'objectif actuel. Pourtant, Quelques heures auparavant, les pays les moins développés et les petits États insulaires avaient quitté une consultation avec ce même montant. Et depuis quelques jours, des voix s'élevaient, y compris au sein du groupe Afrique, pour dire qu'il était préférable de renoncer à un accord à tout prix. Alors pourquoi ce compromis a-t-il finalement été accepté? Élément de réponse avec Alden Meyer, associé principal chez E3G et vétéran des COP.
Les pays en développement ont vraiment besoin de plus d'aide financière. Cet accord, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Évidemment, c'est loin d'être suffisant. Mais je pense qu'à la fin de ces deux semaines, ils ont compris que leurs partenaires n'étaient pas prêts à se fixer un objectif très au-delà de la barre des 300 milliards de dollars. Ils se sont retrouvés face à un dilemme, accepter quelque chose qu'ils ne trouvent pas à la hauteur et revenir se battre pour avoir plus l'année prochaine à Belém ou partir sans avoir rien obtenu. Évidemment, c'est un choix très difficile. Je pense que la présidence de la COP29 est un facteur qui a joué un rôle ici. Les négociateurs avec qui j'ai parlé ne voulaient pas passer plus de temps l'an prochain à travailler sous cette présidence pour essayer d'obtenir un accord. Ils étaient pressés d'en finir, de passer à Belém et de ne plus avoir à travailler sous cette présidence. Et puis il y aura un nouveau président aux États-Unis dans deux mois, et même s'il a dit qu'il se retirerait de l'accord de Paris, on ne sait pas comment ces négociateurs vont se comporter.
Un propos recueilli par Jeanne Richard. Au Burkina Faso, plusieurs attaques ont visé des positions des forces de défense et de sécurité ce week-end. Des hommes armés ont attaqué la localité de Tangari dans l'Est ce samedi. Des aéronefs ont été envoyés en renfort selon des sources sécuritaires. Pour l'heure, aucun bilan disponible. En revanche, 22 personnes, dont 8 volontaires pour la défense de la patrie, ont été tuées dans deux attaques distinctes, à Forgui, dans la région du centre-nord, et à Ganskoum, au centre-est, selon des sources locales.
Abidjan, 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, les Guinéennes d'Abidjan peuvent demander des cartes consulaires gratuitement. L'établissement de ces papiers d'identité coûte plusieurs milliers de francs CFA en temps normal. Cette décision des autorités de Conakry et de l'ambassade de Guinée à Abidjan fait suite au signalement de cas de maltraitance et d'agressions subies par des vendeuses de rue le mois dernier. Les plaignantes accusent des agents de la police municipale de les avoir violentées. Une opération d'enrôlement s'est déroulée ce matin à Yopougon, dans une école publique de cette banlieue de la capitale économique ivoirienne. Reportage Benoît Almiras.
L'établissement scolaire est transformé en un bureau d'état civil de fortune. Un agent du consulat guinéen prend les empreintes et les photos des demandeuses.
Main gauche. L'index, trois fois.
Bon, là, je suis en train de valider le dossier. Ça veut dire que désormais, ces femmes-là sont identifiées au niveau de l'ambassade.
Elles sont au moins 300 assises à l'ombre des préaux. Des Guinéennes sans papier, originaires pour la plupart de la région de Nzérékoré, à la frontière de la Côte d'Ivoire. C'est le cas d'Antoinette. Cette petite commerçante voit la carte consulaire comme une protection contre les tracasseries.
Quand on veut voyager comme cela, là, souvent on nous arrête sur la route pour demander nos pièces. Si on n'a pas de pièces, on est obligé de payer sur la route.
Vous pensez qu'avoir vos pièces, ça va vous aider complètement ?
Ah, ça va nous aider même largement.
Pour d'autres, une carte, c'est une sécurité. Gérard Lecadou organise l'opération avec la Fondation Aba Afrique. Pour lui, il faut aussi sensibiliser les commerçantes au respect des lois ivoiriennes.
Le plus important, c'est qu'elles ne soient pas en conflit avec la loi. Parce que c'est parce qu'elles ne respectent pas la loi que souvent certains profitent pour abuser de leur ignorance ou de leur vulnérabilité.
Selon Aba Afrique, le consulat de Guinée à Abidjan prévoit de délivrer 1000 cartes consulaires gratuites. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
La suite des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 dans la banlieue de Dakar. Ce dimanche, dans le groupe A, la République démocratique du Congo a dominé l'impressionnante équipe du Soudan du Sud. Une victoire précieuse, 76-69, qui permet aux Congolais d'être seul leader de ce groupe. À la grande satisfaction de l'arrière de la sélection congolaise, Frédéric Loubaki.
C'est une belle victoire, c'est surtout une victoire collective. On a fait de gros efforts en défense. On est arrivé jusqu'en prolongation, c'est-à-dire que vraiment on a fait beaucoup d'efforts et franchement ça fait plaisir de remporter cette victoire très importante pour la suite. On savait que ça allait être un combat pendant de nombreuses minutes. C'est ce qui s'est passé. Et la pièce est tombée du bon côté. Je pense qu'on a aussi provoqué la chance. Donc voilà, honnêtement c'est une victoire méritée. Et je dirais que c'est la victoire la plus importante parce que nous deux on était à deux victoires. Et maintenant, on est la seule équipe du groupe à avoir 3 victoires, donc forcément c'était un match beaucoup plus important que les autres. Honnêtement, on a eu une préparation de courte durée. Mais je suis vraiment fier de mes coéquipiers et du staff et tous ceux qui ont participé pour qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. Donc c'était vraiment un plaisir de travailler avec ce groupe-là. Ouais.
Un propos recueilli par Babacar Fall. Il est 19h40 à Dakar.